Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h46, Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin Benoît Hamon.
Bonjour Benoît Hamon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce studio.
Merci de votre invitation.
Votre ancien collègue du gouvernement, Jean-Yves Le Drian, pilier du hollandisme, a ouvert la porte hier à une candidature de Manuel Valls à la place de François Hollande. C'est un tournant pour vous ?
Écoutez, je ne sais pas si c'est un tournant. C'est surtout qu'il y a beaucoup d'incertitudes dans l'exécutif et des ministres qui s'interrogent sur la capacité ou pas du président de la République à être candidat à sa propre succession. Écoutez, moi, je pense que le plus légitime de Manuel Valls ou de François Hollande, c'est François Hollande. Il a été élu à défendre la politique qu'ils ont conduite et qui a jusqu'ici, hélas, échoué sur les questions sociales.
Est-ce que vous l'avez entendu comme une volonté, un souhait en creux de Jean-Yves Le Drian que Manuel Valls y aille ? Est-ce que Jean-Yves Le Drian soutient Manuel Valls ?
C'est pas mon problème.
Ouais. Mais est-ce que vous l'avez entendu comme ça ? Est-ce que c'est votre interprétation
politique ? Oui, on peut l'interpréter comme ça. Oui, sans doute, Jean-Yves Le Drian soutient maintenant Manuel Valls si François Hollande n'est pas candidat, mais objectivement, c'est pas mon problème.
Et pourquoi François Hollande doit être candidat ? C'est une phrase que vous avez prononcée.
Je pense qu'il est légitime. Il a été élu. Il a déçu bon nombre d'électeurs. Il n'est pas illégitime qu'il se représente pour faire l'inventaire de ses échecs, de ses réussites et qu'il se défende lui-même. Je préférerais que ce soit lui plutôt qu'un clone, en l'occurrence, même si c'est un clone un peu plus jeune,
Manuel
qui s'appelle
Valls.
Manuel Valls.
Ah oui. Manuel Valls, c'est la même ligne ? C'est la même candidature ? Ce serait le même, finalement, François Hollande, pour
écoutez,
vous ou pas ? Puisque ce serait votre
ils
adversaire.
Ils ont en commun un discours, celui de Munich, prononcé par le Premier ministre, mais qui a donné le la d'une forme de fermeture de la France aux réfugiés. Ils ont en point commun la déchéance de nationalité, c'est-à-dire la rupture avec des valeurs fondamentales de la gauche sur l'égalité des citoyens devant la loi. Ils ont en commun d'avoir choisi de faire la loi travail par 49-3, c'est-à-dire avec un déni de démocratie à la clé et derrière une loi qui va fragiliser les salariés. Donc sur ces questions-là, ils sont d'accord. Et c'est ce qui justifie mon désaccord avec eux. C'est finalement triple rupture sur la question européenne et de son ouverture au reste du monde, sur la question des valeurs avec la déchéance de nationalité, sur la question sociale avec la loi travail. Donc l'un ou l'autre, moi je...
C'est les mêmes. Pour vous, c'est les mêmes.
Sur le fond, oui.
Et dernière question là-dessus, vous vous rangerez derrière le vainqueur de la primaire, vous l'avez dit. Donc si c'est Manuel Valls qui remportait la primaire et pas vous, vous rangeriez derrière Manuel Valls.
Posez-lui la question au sens inverse. Nous, on nous pose toujours la question, vous rangerez-vous derrière François Hollande ?
Oui,
mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de je joue le jeu d'une...
On lui posera la question
d'un scrutin démocratique.
S'il était candidat, mais
le
vous,
fait
vous
est
feriez.
Que moi, je m'inscris dans un processus où il y aura un gagnant, un perdant. Vous ne dites pas à la fin, non, le gagnant n'est pas gagnant. Si le processus est clair, loyal et démocratique, il aura un vainqueur et ceux qui sont perdants, évidemment, accepteront le verdict.
Voilà, ça aussi c'est clair. Coup de théâtre au Parti communiste. Samedi, ces élus se sont désolidarisés de leur chef, Pierre Laurent, et ont dit non à Jean-Luc Mélenchon. D'abord, est-ce que vous comprenez qu'une partie des communistes soit exaspérée par Jean-Luc Mélenchon ?
Oh, écoutez, je sais pas quoi vous répondre. La réalité, c'est que Jean-Luc Mélenchon, il a aujourd'hui une approche qui ne privilégie pas le rassemblement de la gauche. Et que le Parti communiste a historiquement été un des architectes du rassemblement de la gauche. Et il n'est pas illégitime que des dirigeants communistes se posent la question de savoir à quoi sert la candidature de Mélenchon. Est-ce qu'elle sert à tuer le PS, mais à faire perdre la gauche, ou est-ce qu'elle sert au rassemblement de la gauche ? C'est sur ce point aujourd'hui que Jean-Luc Mélenchon a besoin de clarifier sa démarche, parce qu'on a plutôt le sentiment qu'il ne vise pas la victoire de la gauche, mais d'abord de battre le Parti socialiste. Ça me paraît être assez insuffisant comme mobile pour être candidat à l'élection présidentielle.
Et dans ces conditions, quel est le candidat le mieux placé pour, j'allais dire, aimanter les voix communistes ? Vous ?
Oui.
Vous avez des arguments ?
Oui, et d'autres.
Plus qu'Arnaud Montebourg, par exemple ?
Non, mais pas plus que, je ne suis pas dans un concours de muscles. La question, c'est qui aujourd'hui, dans l'approche qui est la sienne des 10, 15, 20 ans qui viennent, est en capacité de rassembler la gauche sur des valeurs claires, reconnaissable, identifiable immédiatement. Moi, je préconise aujourd'hui que sur la question du travail, on cesse de regarder le travail tel qu'il était auparavant, c'est-à-dire avec des carrières linéaires, mais tel qu'il va devenir, avec des carrières de plus en plus intermittentes, cassées, qui justifient aujourd'hui bien qu'on change notre rapport au travail, d'où le revenu universel d'existence qui sera la sécurité sociale.
Mais attendez, je vous arrête là-dessus, c'est intéressant parce que justement, vous avez des arguments peut-être pour le PC, mais le revenu universel...
J'entends bien, mais c'est pour ça que, pour moi, le revenu universel d'existence, c'est pas le salaire du chômage. C'est pas le fait de donner un salaire à ceux qui sont au chômage. C'est changer le rapport au travail. Qui, aujourd'hui, regarde le fait que le travail se raréfie parce qu'il y a une formidable aventure qui commence, celle de la révolution technologique. Des machines remplacent des hommes. Ça peut être une opportunité extraordinaire pour nous de travailler moins et de ne plus dépendre du travail pour vivre bien.
Alors,
seulement du travail. Ce que je veux juste dire là-dessus, encore d'un mot, c'est ça qu'il faut appréhender. demandée à l'occasion de la présidentielle.
Vous
et cela
raison,
repose la question
plan.
Sociale au
vous
cœur du
raison.
Débat présidentiel.
C'est l'arrière-plan du revenu universel. 750 euros pour tous, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, 750 euros par mois. Ce que dit le PC, et ça c'est intéressant d'en discuter sur le fond, c'est que ça pourrait déresponsabiliser le patronat d'une certaine façon, qui s'interrogerait pourquoi est-ce qu'on conserverait le SMIC, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on augmenterait les salaires s'il y a un revenu d'existence qui est accordé à tout le monde.
Mais je veux vous dire, c'est réflexion. Un peu l'air du temps que de voir derrière toute innovation sociale la catastrophe qui s'annonce. Moi, je ne vois pas les catastrophes forcément d'abord. Je regarde de quelle manière aujourd'hui, dans un monde dans lequel on souffre au travail, on en a de moins en moins de travail, on va avoir, je vous le dis, une révolution technologique, de quelle manière on construit la protection sociale du 21e siècle. La protection sociale du 21e siècle, ça ne peut pas être de toujours allonger le nombre d'annuités cotisées pour pouvoir avoir une retraite à taux plein. Ça ne peut pas être de dérembourser des médicaments pour maintenir le régime de la sécurité sociale, de l'assurance maladie.
Réforme, non, c'est, grande révolution.
C'est de changer l'approche que nous avons du travail. Et si demain, il y a de moins en moins de personnes qui travaillent pour financer la sécurité sociale, ce qui va se passer ? Comment fait-on pour qu'on ait demain une protection contre la maladie et une retraite ? Eh bien, il faudra faire payer à notre place, pour partie, les machines, les robots qui nous remplacent. C'est de ça dont on parle. Et moi, je souhaite que sur ces questions, on se préoccupe pas simplement des inconvénients et des catastrophes soi-disant à venir, mais qu'on essaye d'être un peu innovant et de regarder le monde tel qu'il vient et pas tel qu'il a été.
À propos, vous dévoilez aujourd'hui votre slogan de campagne, votre campagne pour la primaire du mois de janvier. Le thème, c'est quoi ? C'est amont l'humaniste, amont le...
Non, c'est, ce sera c'est faire battre le cœur de la France.
Faire battre le cœur de la France.
Faire battre le cœur de la France, donc parce qu'on pourrait croire qu'il s'est un peu arrêté. Le cœur, mais ouais. Je pense que quand on regarde la France en face, sur le terrain, dans toutes les solidarités qu'il y a pour faire face au recul des services publics, les innovations écologiques qui maintiennent une forme d'harmonie avec le cadre de vie, l'engagement associatif de centaines de milliers de bénévoles, on voit que ce cœur-là, il est bien robuste, vaillant. Le problème, c'est qu'il ne gouverne plus. C'est qu'aujourd'hui, on a au sommet de l'État des choix politiques qui sont faits, d'ailleurs qu'on soit droite modérée ou de gauche modérée, qui se ressemblent sur les questions de sécurité, sur les questions de politique budgétaire, sur la politique étrangère, même
et
sur le travail.
La politique de la ville et de l'emploi. Je voudrais justement faire battre le cœur de la France. Ça incite un peu à l'optimisme aussi. Hein. C'est assez solaire comme volonté d'incarner comme
solaire,
ça.
Solaire, c'est ça.
Oui, c'est ça. Ah. Ben, je vous le souffle. Emmanuel Macron, c'est à lui qu'on prête une forme d'optimisme dans le discours politique aujourd'hui. Je voudrais vous soumettre une déclaration qu'il a faite à Mediapart la semaine dernière. Il affirme qu'il vaut mieux que les jeunes des cités passent 50-60 heures à bord de leur volant, de leur voiture Uber, plutôt que de rester dans leur cité à tenir les murs, comme ils disent, c'est-à-dire à faire du deal. Il vaut mieux gagner le SMIG et travailler beaucoup que de glander dans une cité.
C'est assez caricatural. C'est honnêtement caricatural. Moi qui suis élu de la banlieue parisienne,
le
choix, il n'est pas entre, pardon, mais excusez-moi, mais bonjour la perspective, entre le deal ou d'être chauffeur Uber qui va enrichir,
non,
mais qui enrichit les propriétaires d'Uber qui ne payent pas d'impôts nulle part.
Mais
c'est ça l'arrière-plan.
Oui, mais dit-il, notre bien-pensance les condamne à une résidence.
Oui, non, mais moi je ne suis pas bien-pensant, justement. Et je me prête de connaître un peu le terrain. Il me semble aujourd'hui que le sujet, c'est que quand on travaille, quand on fait des études, quand on a un diplôme, quand on a été méritant, eh bien qu'on ait un emploi, un salaire à la hauteur du diplôme que l'on a obtenu dans les quartiers comme ailleurs. Or, la réalité aujourd'hui, c'est que la discrimination à l'embauche, c'est le fait qu'aujourd'hui, on soit mis de côté parce qu'on n'a pas la bonne adresse, ou pas la bonne couleur, ou pas la bonne religion, parce que l'islamophobie aujourd'hui, elle règne, eh bien, ça vous écarte de ce à quoi vous avez droit. Donc je pense que le choix, ce n'est pas entre le deal et Uber, c'est le fait qu'on ait le droit, dans ces quartiers, à ce à quoi ont droit tous les autres.
C'est dit, faire battre le cœur de la France, c'est slogan de Benoît Hamon. Merci d'avoir été avec nous sur RTL ce matin.
Le plus légitime de François Hollande, Emmanuel Valls, c'est François Hollande qui, lui, a été élu, nous a dit Benoît Hamon. Benoît Hamon qui s'adresse notamment aux électeurs communistes dans le cadre de cette primaire de la gauche.
RTL Matin, 7h55.
Merci à tous les deux. L'entretien est à retrouver évidemment en intégralité sur le site rtl.fr.